On sait que dans notre MRC à nous, Rivière-du-Loup, ce sont les maires qui élisent le préfet. Donc, s'il y a une quelconque course à la préfecture, moi, personnellement, ça fait 36 ans que je fais des affaires publiques, je me souviens pas d'en avoir entendu parler. Alors, c'est un phénomène particulier, de plus en plus particulier, étant donné que le préfet actuel lui-même a déjà mentionné qu'avec la charge de travail, les responsabilités, le budget qui incombe au MRC maintenant, d'avoir un préfet élu par la population et de permettre un débat d'idées sur la place publique, c'était loin d'être une mauvaise idée. Depuis ce temps-là, le temps a passé et M. Lagacé a été réélu à deux reprises depuis ce temps-là, toujours et encore par les maires. Alors, comme vous voyez, pour certains d'entre vous, ça pourra avoir l'air de radotage, alors que pour d'autres, c'est une espèce de mise à jour qui s'impose. De temps en temps et dans le temps, on est avec Michel Lagacé au retour.
Bonjour, Grand Portage politique.
Ouais, comme on vous l'a mentionné avant d'aller à cette pause-là, on reçoit Michel Lagacé ce matin pour faire le point, parce que je pense qu'à un moment donné, c'est normal de le faire. Et j'ai utilisé volontairement le mot « radotage », parce que pour certains, il y a des sujets qui les intéressent plus ou moins, puis pour d'autres, il y a des sujets qu'ils veulent quand même voir aborder de temps en temps pour savoir où on est rendu dans la tête de celui que j'appelle maintenant l'homme le plus puissant du haut du Bas-Saint-Laurent. Bon matin, Michel Lagacé.
Je pensais que c'était vous. Bonjour, c'est bien.
Non, pas du tout. Pas du tout. On va commencer par la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, ouais. Tiens. Et c'est pas nécessairement par ordre d'importance, là, c'est tout ce qu'on aborde ce matin, là. Traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon, il est comme clair que la classe politique, présentement, se range derrière Rivière-du-Loup. On l'a vu au débat des candidats à l'élection fédérale mardi matin. Vous êtes rangé de ce côté-là. La Chambre de commerce se range de ce côté-là. Expliquez-nous la démarche par rapport à ce phénomène d'isolement qui se produit par rapport à Kakuna, qui est quand même dans la MRC de Rivière-du-Loup et qui part quand même pas les mains vides dans cet enjeu-là, c'est-à-dire qu'ils ont déjà un port en eau profonde. Expliquez-moi votre démarche et celle de la MRC par rapport à cette prise de position-là.
Bien, essentiellement, M. Saint-Pierre, l'année passée, on a demandé à ce qu'il y ait un ensemble d'études qui soit réalisé avant toute conclusion par la STQ. Ce printemps, on a adopté une nouvelle résolution en demandant des éléments supplémentaires par rapport à l'analyse qui devrait être faite, dont entre autres, qu'il n'y ait aucun impact négatif en lien avec un éventuel déménagement par rapport à ce qui se vit actuellement, c'est-à-dire le schéma d'aménagement qui fait une grande place en ce qui a trait à la traverse Rivière-du-Loup. C'est un outil de développement important, puis sa déclinaison, les règlements de zonage qui ont été adoptés au fil des années par la ville de Rivière-du-Loup pour permettre l'émergence d'une industrie récréotouristique qui a pignon sur rue depuis plusieurs décennies. Donc, c'est un élément-là ces deux éléments-là sont très importants. J'ai été sollicité pour participer au point de presse et déjà j'ai été avisé que les préfets du Kamouraska, des Basques et du Témiscouata seraient présents. J'ai répondu présent essentiellement pour deux choses. D'abord de réitérer que la traverse est un outil qui est extrêmement important pour le développement de la ville de Rivière-du-Loup et puis de son territoire, de sa région. Et en même temps de réitérer que ce qu'il faut bien voir, c'est que le port en eau profonde, ça, il a une vocation industrielle qui est importante. Depuis peu, la Société des ports de l'Est du Québec est née. On sait que les rapprochements sont beaucoup plus intéressants en lien avec la possession provinciale que la possession fédérale. Et on a espoir que le port de Kakuna pourrait vivre des années ou des projets plus intéressants dans les prochaines années. Donc, on ne souhaite pas que ce développement-là puisse être handicapé.
Mais Mme Darris a fortement réagi quand même à cette présence-là. Présence.
Oui, mais oui, tout à fait. Elle a droit.
Oui.
Elle a le droit de réagir. Puis je dirais qu'avoir été absent, probablement que vous auriez réagi ou encore d'autres auraient réagi en disant comment ça que les trois autres préfets de Kamouraska, Témiscouata, les Basses sont là et le préfet de Rivière-du-Loup ne soit pas là. Ouais. Fait que je pense qu'il faut apprécié, je dirais, l'état des choses par rapport à la traverse. Je le répète, ça fait 112 ans que la traverse est à Rivière-du-Loup. Il y a là des infrastructures qui ont été bâties de façon importante pour répondre aux besoins des gens qui arrivaient vers la rive sud de la rive nord. Donc, c'est tout à fait normal que cet intérêt-là se matérialise par une présence.
Bien. Dans le dossier de la traverse, la MRC a aussi adopté une résolution disant « si jamais il y a déménagement, il faudrait qu'il y ait compensation ». À ce moment-là, probablement que tout le monde était de bonne foi devant une menace, ma foi, imminente. C'est comme si, dans la façon d'agir de la MRC à ce moment-là, on était comme persuadé que les dés étaient jetés, sans dire qu'ils étaient pipés, et là, on voulait prendre tout de suite des mesures, appelons ça coercitive, pour dire au gouvernement, si vous déménagez, on veut des compensations. Avez-vous agi trop vite à
non,
ce moment-là?
Dans le fond, cette résolution-là, quand on prend la peine de la lire du haut jusqu'en bas, ce qu'on vient dire, là, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait d'impact négatif par rapport au déplacement de la traverse. C'est ça qu'on dit essentiellement. Là. Il ne faut pas qu'il y ait d'impact négatif. Et à la fin, on dit, advenant le cas où ce que le STQ, malgré les impacts négatifs qu'il y aurait de vécu, il devrait y avoir une compensation importante. Mais dans les faits, là, on a adopté une nouvelle résolution qui vient camper, je dirais, davantage les intérêts. C'est-à-dire, il faut que la STQ vienne démontrer, hors de tout doute, qu'il n'y aura pas d'impact négatif sur un éventuel déplacement de la traverse.
OK. Parlons de ces maires, M. Lagacé. Oui. Et c'est là où on radote un peu plus, là, j'en suis conscient.
Nous aussi, on radote des fois. Là.
Cette année, ça va marquer ce qu'on pourrait appeler un triste anniversaire, c'est-à-dire que presque jour pour jour, quand l'élection aura lieu, Mme Vignet, dans la première entrevue qu'elle nous accordait après avoir été élue, dévoilait que le montant du déficit augmentait de 100 000 $ par mois. Ça fait 4 ans de ça. À l'intérieur de ces 4 ans-là, vous vous êtes engagé, il y a 2 ans environ, je pense que c'était en 2019, à plus de transparence, à aller plus au-devant de la population, à expliquer. Et vous êtes même allé, je pense pas que vous allez contredire ça, vous êtes même allé jusqu'à laisser entendre que, sans dévoiler tous les états financiers, on pourrait dévoiler certains aspects des finances de la CMR.
Oui.
Aujourd'hui, on est forcé de constater, 4 ans plus tard, qu'il n'y a rien de ça qui a été fait, qu'on ne sait pas où est rendu le déficit et que ce qui vous protège à l'heure actuelle, c'est la loi de l'accès à l'information qui vous permet de vous réfugier derrière elle en disant « on dira rien, on dévoilera rien, la loi nous protège ». Elle vous protège, mais elle ne vous empêche pas, à votre gré, de dévoiler certains aspects. 4 ans plus tard, qu'est-ce que vous dites à ceux qui s'intéressent au déficit et à la santé financière de la CMR?
Quand vous dites que les gens ne le savent pas, le conseil de la MRC, c'est la hauteur du déficit. Donc, c'est bien important de comprendre. Puis, j'avais pris un engagement, je pense que ça fait 1 an et demi, 2 ans, ou durant la pandémie, comme de quoi qu'à partir du moment où on aurait l'ensemble des réponses sur le financement, de quelle façon la pérennité d'usine serait assurée, qu'à ce moment-là, on sera capable de mettre les pièces du puzzle en place, puis d'identifier la hauteur du déficit, puis en même temps, bien entendu, de quelle façon on peut répondre à cette hauteur-là, puis à nos autres obligations, qui sont le remboursement de la dette.
Bon, deux choses. Vous savez très bien, parce que vous êtes un homme intelligent, vous savez très bien que quand je vous pose la question, c'est au nom de la population.
Oui.
C'est pas pour savoir si les maires ou vos partenaires au conseil d'administration de la CMR connaissent le déficit. Vous savez très bien que c'est au nom de la population qui, elle, ne le sait pas parce que les maires n'ont pas le droit de le dire. Alors, quand vous me répondez ça, j'ai des interrogations profondes sur votre intérêt à la transparence dans ce dossier.
Bien, M. Saint-Pierre, il y a eu des décisions, vous l'avez dit tantôt, par la loi de l'accès à l'information. On est une CMR, c'est une société de l'économie mixte, qu'on a un partenaire privé, puis que c'est une...
Oui, mais c'est parce que vous nous répétez ça depuis 4 ans.
Bien, c'est la vérité.
Cette loi d'accès, M. Lagacé, dites-nous ce matin, là, en vous appuyant sur votre serment d'office de préfet, que la loi d'accès à l'information telle qu'elle est faite ne vous permettrait pas, à ce moment-ci, de dévoiler quoi que ce soit si vous le désirez, les états financiers ou le déficit de la CMR.
Je viens de vous le dire tantôt là, qu'à partir du moment où on aura tous les pièces du puzzle, c'est-à-dire la réponse à nos demandes de financement, qu'à ce moment-là, on va être capable, pas uniquement de dire la hauteur du déficit, mais comment on va rencontrer l'ensemble de nos obligations.
Ma deuxième intervention, suite à votre réponse, pourquoi nous avons besoin d'attendre la finalité de la demande que vous faites au gouvernement pour savoir, en date d'aujourd'hui, le déficit est de combien? Il est où, là, le rapport de cause à effet dans votre argumentaire? On a besoin...
Pour les gens, M. Saint-Pierre, là, ce qu'ils veulent savoir, c'est un, est-ce que la SAMER remplit ses obligations environnementales, puis de quelle façon on va remplir ses obligations économiques, puis de quelle façon sa pérennité va être assurée. Fait que les gens, ils veulent pas avoir un morceau de l'œuvre, ils veulent avoir l'ensemble du morceau de l'œuvre. Puis l'ensemble, ben, c'est à partir du moment où on va avoir une réponse à nos demandes, qui sont légitimes, qui sont analysées actuellement. Voir de quelle façon on va, à la suite, là, rendre disponibles les informations qui vont permettre de rassurer la population.
Si vous vous mettez à la place de cette même population...
J'en suis une.
Êtes-vous vraiment convaincu que la population veut tout savoir sur la SMR? Il y a une chose qui l'intéresse particulièrement, et c'est l'os autour duquel on ronge depuis 4 ans. Depuis que Mme Vignet nous a dit que le déficit augmentait de 100 000 $ par mois... Il est rendu à combien? 9, 10, 11, 8, 7,5? Est-ce que le 100 000 $ est encore un point de référence? Est-ce que ça a diminué? On ne demande pas d'avoir les livres sur la table. On demande à combien est le déficit. Ça fait 4 ans, M. Lagacé.
M. Saint-Pierre, je vais vous répéter la même affaire que je fais depuis les dernières années. C'est quand on va voir l'ensemble des morceaux. Là. Puis les gens, là, ce qu'ils veulent savoir, c'est à quel moment on va vendre du biogaz. Ça aussi, ça intéresse passablement les gens. Je dirais même, au-delà du déficit, il y a plus de gens qui nous questionnent à quel moment on va vendre le biogaz que pour ce qui est du reste.
C'est parce que ça va un petit peu ensemble. Là,
C'est pour ça que pour nous, c'est important d'avoir une réponse du gouvernement. Puis à la suite de la désentente, puis on a une entente de 20 ans avec Énergie qui va prendre effet à la première livraison, les gens vont avoir accès à ce moment-là à l'ensemble de l'œuvre et non pas à une partie. Puis là, les gens vont dire, bon, c'est correct, c'est ça la hauteur de déficit, mais comment ils vont faire pour rencontrer leur obligation? Quand on va offrir, ça va être l'ensemble de l'œuvre, pas uniquement une partie.
OK. Comment vous avez réagi à la déclaration écrite de Pierre Fitzgibbon qui dit, concernant la CMR... que les enjeux ont changé. Comment vous interprétez ça? Parce que nous, on a un peu de difficulté à l'interpréter. On a échangé des courriels. Tout ça est écrit, là. C'est pas des inventions, là. Comment vous interprétez ça?
Ben, je dirais que dans le cas du MEI, là, vous savez, je vous le dis depuis longtemps, là, nous, on travaille avec les fonctionnaires, pas avec les politiques, avec les fonctionnaires. Le MEI a un travail de coordination avec d'autres ministères, c'est-à-dire le ministère de l'Environnement, le ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Donc, ces gens-là œuvrent en synergie au travers des ministères. Puis à l'occasion, le MAMACH a aussi été, le ministère des Affaires municipales, a aussi été impliqué. Et dans le cas de M. Fitzgibbon, ce qu'il dit, c'est que on va investir à partir du moment où ce que la pérennité va être assurée.
Ouais.
Donc, actuellement, on a déposé nos études d'ingénierie, notre plan d'ingénierie pour ce qui est de Sénéca, ça a été fait fin juin, 23 juin. Et à la suite, là, actuellement, là, ben c'est Pricewaterhouse qui vérifie, ce qu'on a amené comme chiffre, est-ce que ça permet d'assurer la pérennité de l'usine?
On dit aussi dans cette correspondance-là avec Pierre Fitzgibbon qu'à partir de janvier, il faudra se questionner si on devra refinancer la CMR qui a déjà été financée dans le passé par manque de liquidité.
Je dirais que c'est le défi, là, c'est la vente du biogaz. Fait que... Tant aussi longtemps.
Non, on comprend pas... ça, M. Lagacé.
Donc, les liquidités les liquidités positives sont directement en lien avec la vente du biogaz.
Oui.
Et dans le cas de M. Fitzgibbon, je le répète, on travaille avec ses fonctionnaires. Puis je dirais, cette semaine, j'ai eu de nombreux échanges avec de nombreux fonctionnaires. Puis le dossier continue à cheminer de façon positive.
Oui. Si on devait refinancer en janvier, Pierre Fitzgibbon laisse quand même entendre, et là, c'est le gouvernement, c'est pas les fonctionnaires, si le gouvernement devait refinancer, Pierre Fitzgibbon dit quand même, un instant, on va prendre le temps d'y penser, là.
Mais c'est actuellement, là, c'est ce qui est fait, là. La révision cadre financier de la SAMER par Pricewaterhouse.
Fait que, on remonte,
c'est ce qui se fait, là.
On remonte en 2019. On demande 2 300 000 au gouvernement pour être capable de produire du gaz naturel comprimé.
Oui.
Comment vous expliquez, presque 2 ans plus tard, parce que si ma mémoire est bonne, c'était plus de 2 ans plus tard, si ma mémoire est bonne, l'annonce s'est faite en mars 2019.
Oui, comment, je parle 19 mars.
Comment vous expliquez, 2 ans plus tard, que pour 2,3 millions, le chèque n'est pas sur la table et depuis longtemps?
Bien, regardez, je peux vous dire que le 27 septembre 2019, notre ministre régional nous disait que le dossier était attaché. C'était Mme Proulx. Mais dans les faits, ça s'est pas avéré véridique. Fait que dans les mois qui ont suivi, on a été obligé de déposer une demande. Quand on a fait une demande plus formelle, plus complète, puis, ils nous ont demandé des plans d'ingénierie. Il y a une première analyse qui a été faite par Seneca à ce moment-là. Une première analyse qui a été faite par Pricewaterhouse à nouveau. Ça, c'était en 2020, l'hiver 2020. À la suite, on a adressé à nouveau les demandes, puis voir de quelle façon les choses progressaient. Ils nous sont arrivés à la suite là, avec une demande formelle de plan d'ingénierie, des plans d'ingénierie qui vont permettre de mieux préciser les coûts de réalisation des transformations. Puis c'est ce qu'on a fait. Puis on a livré, je dirais, début juin, 23 juin, rencontre avec les fonctionnaires. Mm-hmm. 1er septembre, la semaine passée, semaines, une rencontre à nouveau avec d'autres fonctionnaires.
La technique pour produire du gaz naturel liquéfié.
Oui.
Tel qu'on voulait le produire à la SEMER. C'est une technique qui n'était pas au point, ça n'a pas fonctionné. D'accord là-dessus?
Oui.
Parfait. Celle qui nous permettrait de produire du gaz naturel comprimé, est-ce qu'on est sûr à 100%, et là je vais imager ma question, est-ce qu'on est sûr à 100% qu'on a le manuel du propriétaire, les instructions de montage et la garantie qu'une fois faite, ça va marcher?
Ce que je vais vous dire, ça va vous surprendre ce matin, M. Saint-Pierre. On revient vers le gaz liquéfié et on a, je dirais, un nouveau partenaire privé intéressé à nous accompagner et qui va bénéficier du contrat avec Énergie. Mais on s'en va cette fois. La demande qui a été déposée formellement en juin, c'est du liquéfié. Pour qu'on puisse bénéficier pleinement des attributs environnementaux du gaz du lait.
Donc, on appelle ça un aller-retour.
Oui, mais je dirais que c'est un passage obligé.
Vous m'avez devancé parce que je vous posais cette question-là en préambule à celle qui allait venir après, parce que dans la correspondance de Pierre Fitzgibbon, il est clairement écrit que le marché du gaz liquéfié et le marché du gaz comprimé sont bons à l'heure actuelle. La question que je vous pose, Monsieur Lagacé, président de la SEMER, quand vous avez décidé de vous tourner vers le comprimé, le liquéfié était supposément plus bon.
C'était la photo de là 2 ans, et c'est Énergie qui
nous a dit ça. Et là, vous tournez le dos au comprimé pour retourner vers le liquéfié. Allez-vous avoir le temps d'en produire avant que ça change vers le comprimé?
L'entente avec Énergie est sur 20 ans. Et ils sont prêts à accueillir tout le gaz liquéfié qu'on va pouvoir produire.
La petite bombe que vous venez de lancer mérite une question.
Oui.
Comment on va faire pour mettre en marche maintenant ce qu'on n'a pas pu mettre en marche pendant 4 ans?
Ça fait partie des demandes qui ont été adressées au gouvernement du Québec pour la mise à niveau des équipements. Donc, c'est adressé, la demande a été déposée, puis elle est sous analyse.
Qu'est-ce que vous avez de plus maintenant, techniquement parlant, qui vous permet de dire au gouvernement, cette fois-là, quand on va prendre le bras puis qu'on va le monter à on, ça pètera pas?
Il y a 2 firmes d'ingénierie qui sont passées sur le dossier. Une qui est en lien, qui est Seneca, puis une autre qui est en lien avec le partenaire privé avec qui a manifesté beaucoup d'intérêt pour joindre l'entente et la SAMER.
Vous parlez de Térix Enviro-Gaz?
Non.
Vous parlez de qui?
D'un partenaire privé. D'un autre partenaire privé.
Secret?
Pour l'instant, oui.
Pourquoi?
Pourquoi? Ben, les paramètres de l'entente ne sont pas signés.
Okay. Ils ont été convenus. Est-ce que Térix Enviro-Gaz est encore dans le portrait?
Oui, tout à fait. On travaille. Il n'y a pas de session à ce moment-ci. Là. On travaille avec les gens de Térix sur le dossier, puis avec cet autre partenaire privé.
Rien qu'en facture d'ingénierie et de consultation, ça doit coûter une fortune.
Ben, je dirais que dans le cas de... Il y a des passages obligés, M. Saint-Pierre. Dans le cas du gouvernement du Québec, ils nous ont demandé des plans d'ingénierie. Ouais. Donc, on a produit des plans d'ingénierie.
Qui finance ça?
C'est la SAMER.
Vous prenez l'argent où?
Via, ses propres fonds.
Quels fonds?
Attendez un petit peu. Et on a aussi fait une demande, étant donné que la MRC, à l'intérieur d'un financement qui est accordé pour l'innovation via la MEI. On a identifié un certain nombre d'éléments. Puis dans le cas de la MRC, là, elle a payé via ce fonds-là là, 50% de l'étude.
OK. Donc, quand on dit que les déficits d'opération n'affectent pas le citoyen, si la MRC a payé 50% des études...
C'est via un fonds du MEI, M. Saint-Pierre. C'est pas via les codes-parts.
Oui. Est-ce que la ville de Rivière-du-Loup, qui est actionnaire à 40%, a payé l'autre 50%?
Ben, c'est la SAMER qui a payé l'autre 50%.
À partir de quel fonds?
À partir de ses fonds.
Mais vous êtes pauvre comme Job, vous n'avez pas de revenus.
Ben, je présume qu'on peut aussi opérer. Oui. Est-ce que la SAMER est en mode ouverture? Oui. Est-ce que la SAMER continue à traiter...
Qui vous finance?
C'est nos fonds, M. Saint-Pierre.
Mais qui proviennent de qui, de quoi?
Bien, on est à une tarification là, en 2021 à 12 $ par citoyen.
Oui.
Ça amène des revenus qu'on n'avait pas auparavant.
Qui paye la banque d'abord sur le déficit?
Ben, c'est nous autres.
Mais je comprends pas. Je comprends pas l'exercice comptable.
Ben,
on a un déficit qui s'accumule à tous les mois, mais on trouve de l'argent pour payer quand même, opérer l'usine, payer le personnel, payer les études, payer ci, payer ça.
Payer nos comptes fournisseurs.
Mais qui cet argent-là arrive d'où?
Sa mère. De la SAMER, M. Saint-Pierre. Il n'y a pas eu aucune résolution adoptée par un conseil de ville ou conseil d'MRC pour...
Et la SAMER prend cet argent-là où? Je comprends qu'elle puisse recevoir un chèque des crédits carbone puis de tout ça, mais ce chèque-là comble pas les opérations.
Je vais vous donner une réponse.
Mais je vais reposer ma question peut-être plus clairement.
Ben, je vais vous donner une réponse.
Le manque à gagner entre ce que vous recevez du gouvernement pour votre contribution à réduire les gaz à effet de serre, mettons, et tout le reste, là, la différence, vous la prenez où?
Dans le fond, l'année passée, lorsqu'on a signé l'entente avec le gouvernement du Québec pour bâtir l'usine, on a eu un programme qui s'appelle le PTMOBC. Il nous restait 3, un peu plus de 3 millions de dollars à recevoir. L'année passée, parce qu'on avait atteint nos objectifs, on a reçu en novembre 2020 1,3 million de dollars. Donc, ça nous a servi à passer l'année.
Qui venait du provincial.
Du PTMOBC. C'était pas un fonds.
Mais ça, PTMOBC, Daniel Saint-Pierre, ça y dit rien.
C'est
là.
Pour le traitement des matières putrescibles collectées à la source.
OK.
C'était pas dans le fond, je vais simplement dire que c'était pas un fonds d'urgence.
Ouais.
C'est un dû.
Ouais. Régie intermunicipale pour le parc technologique.
Oui.
Ça remonte à quand, ça, les premiers balbutiements du parc? Parce qu'on a l'impression que ça part de quand on a parlé à Pierre Fitzgibbon il y a 6 mois, alors que ça fait bien plus longtemps que ça, là.
Ça fait bien plus longtemps que ça. Dans le fond, quand on a fait notre révision du schéma d'aménagement, le ministère des Affaires municipales nous avait dit, si vous voulez garder le nombre de zones de parcs industriels puis de les grandeurs des espaces qui sont là, il faudrait qu'il y ait une vision territoriale en développement industriel. Donc, à ce moment-là, la voie de sortie pour que notre schéma soit accepté, ben c'était d'avoir une vision territoriale puis d'annoncer nos intentions. Donc, c'est ce qu'on a fait pour ce qui est du port de Kakuna, de la zone industrielle de Kakuna, où on a dit, éventuellement, on pourrait s'emporter, une régie pourrait être mise en place pour s'emporter acquéreur. La même chose à proximité de la voie ferrée à Saint-Arsène, en ce qui a trait à Vanalco, ce qui est le besoin de multimodal. Puis dans le cas du parc technologique, ben ça aussi, ça faisait partie des intérêts qui ont été énoncés à l'intérieur du schéma d'aménagement, comme éventuellement la phase 4 de Rivière-du-Loup par rapport en ce qui est au parc industriel. Donc, ça a été annoncé, ça fait 2 ans. On a fait une première tournée des municipalités, ça doit faire plus d'un an et demi. Et à ce moment-là, on parlait d'un projet embryonnaire, très embryonnaire. Et je dirais que là, on a continué à travailler sur un document avec le CLD de la région de Rivière-du-Loup, avec M. Caillé de la Cité, avec des partenaires privés, des partenaires publics, pour arriver à un dépôt qui était fait l'été passé au ministère de l'Économie et de l'Innovation. Et la suite des choses, ben c'est essentiellement pour mettre en place une régie, ben pour se porter acquéreur, exemple, de tout ce qui va se faire dans le parc technologique, il faut avoir un véhicule. Oui. Le véhicule, c'est une régie.
Madame Vignet, quand on lui a posé la question à la dernière séance du conseil, savoir comment on peut avoir confiance dans cette nouvelle entité-là formée, qui nous donne l'impression qu'elle aura autant de pouvoir que la CEMER, alors que la CEMER envoie depuis maintenant trop longtemps un mauvais signal. Madame Vignet a dit, non, comme il n'y a pas de partenaire privé là-dedans, il n'y aura pas de cachette. Quelle assurance vous nous donnez ce matin qu'il n'y en aura pas?
Bien, c'est comme la régie d'énergie du Bas-Saint-Laurent. Là. Tous ces budgets sont déposés au conseil des MRC avant leur adoption. Ça va être la même chose là. Là, ce qu'on met en place, c'est un véhicule. Puis lorsque le véhicule va être sanctionné par la ministre des Affaires municipales, parce qu'il y a des régies là, qui sont en lien avec les parcs industriels, il y en a plein. Là. Il y a même ici à côté, dans les Basques, il y a des éléments intéressants là aussi. Fait que ça se fait. Puis à partir du moment où c'est créé, ben la régie n'a pas de pouvoir de dépenser parce qu'elle va devoir adopter un budget. Et pour adopter un budget, il va falloir que ce budget-là adopté soit soumis à chacune des communautés locales pour voir s'ils sont en accord ou pas avec le budget. Mm-hmm. Puis quand il va y avoir, exemple, des règlements d'emprunt pour financer des éléments du parc territorial technologique, c'est la même affaire, ça devrait être soumis aux communautés locales.
Donc, il n'y aura pas de partenaire privé dans le carrefour technologique?
Ben, il va y avoir des j'espère qu'il va y avoir des partenaires privés
qui vont s'installer. Mais ne feront pas partie de la régie,
non.
Sinon comme utilisateurs de terrain qu'on leur aura vendu.
Tout à fait.
Bien.
Tout à fait.
Monsieur Lagacé, dernière question, puis elle ne vous implique pas dans rien, puis en même temps, elle vous implique dans tout. C'est qu'on s'est rendu compte, par un effet du hasard, qu'il y avait eu une signature de registre et qu'il y aurait des signatures de registre concernant ce projet-là.
Oui.
OK? Quand on regarde dans l'info dimanche de cette semaine, il y a, ma foi... un petit paragraphe. Un paragraphe, celui du haut ici, là, qui explique un peu c'est quoi la patente. Projet d'entente intermunicipale relative à la création d'un parc industriel territorial technologique de la MRC de Rivière-du-Loup, ayant pour objet la signature d'une entente intermunicipale visant à pourvoir à la conception, l'implantation, le financement, l'exploitation, le développement de tout ou d'une partie d'un parc industriel territorial technologique sur le territoire de la MRC au bénéfice des municipalités membres.
Oui.
Ça, c'est la définition qu'on en fait. Après ça, on dit aux gens, si vous voulez aller signer le registre pour amener un référendum, vous pouvez y aller le 13 et le 14 septembre 2021, entre 9h et 19h.
Ça, c'est pour la ville de Rivière-du-Loup?
Oui. Ce que je veux dire, M. Lagacé, c'est pour ça que je vous dis, ça vous implique dans rien, ça vous implique dans tout. Ne croyez-vous pas qu'il serait temps que les élus, peu importe dans quelle MRC ils sont au Québec, peu importe dans quelle ville ou village ils sont pour diriger les destinées politiques et économiques des populations qui les composent, ne croyez-vous pas qu'il serait temps que la démocratie s'installe autrement que par le minimum prévu par la loi des affaires municipales? C'est-à-dire qu'on demande aux gens d'aller signer ou pas un registre sur un projet dont ils ne connaissent absolument rien et qui pourtant va être initié à partir de leur argent.
Il va être initié.
Est-ce qu'il est temps que ça change? Non, répondez-moi, M. Lagacé. Ben,
Clairement.
Non, c'est pas ça. C'est parce que là, vous étiez parti dans.
Vous ne savez pas, j'étais parti.
Oui.
Ben, vous ne savez pas.
Je m'en doutais fortement. La réponse ne commençait pas par oui, vous avez raison, les municipalités devraient être plus transparentes et explicatives quand vient le temps d'amener des gens. C'est pas normal qu'on ne dépense à rien d'autre que cet avis public-là. Pour inviter les gens à aller signer un registre ou pas sur un projet qu'ils connaissent pas.
Bien, M. Saint-Pierre, je dirais que ça a été la même chose pour ce qui est de la régie d'énergie du Bas-Saint-Laurent, l'énergie éolienne Bas-Saint-Laurent. Et est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là, on reçoit 2,2 millions, 2,3 millions, 2,4 millions par année? Est-ce qu'on a fait un mauvais choix à ce moment-là? Mais dans le cas cas-là spécifique, là, vous savez. C'est le projet qu'on a déposé l'année passée, il y a aussi des projets privés, passablement de projets privés, puis je ne crois pas qu'à ce moment-ci, ces gens-là souhaitent que leur projet soit sur la place publique.
La question est détournée, M. Lagacé.
Mais non, la question n'est pas détournée.
Moi, je vous dis que sur des projets aussi importants qui sont faits et financés avec de l'argent public, que ça vienne de la MRC, que ça vienne du gouvernement provincial, que ça vienne du gouvernement fédéral, ils sont financés à partir d'argent public. Il me semble qu'avant de dire aux gens qui peuvent poser un geste aussi significatif qu'aller signer un registre, on devrait tenir au moins une séance d'information. S'il y a 4 personnes dans la salle, il y en aura 4, mais après, les autres ne pourront pas prétendre qu'ils n'ont pas été informés.
Dans notre engagement, là, M. Saint-Pierre, là, on met en place une structure, une façon de procéder. Par rapport au budget, là, le premier budget de la zone industrielle, on va faire le tour des conseils municipaux, puis on rencontrera les citoyens.
Mais il sera déjà trop tard.
Mais non,
parce que
il n'y a pas une scène de... Monsieur Saint-Pierre, la seule coût qu'il y a eu pour la mise en place de la régie actuellement, c'est les ressources de la MRC puis ces avis publics-là. Il n'y a pas d'autre. Puis cette année, pour ce qui est des quotes-parts de la MRC, il n'y aura rien en ce qui a trait...
Mais si le geste de former est si peu important, comme vous le décrivez, vous dites dans le fond... Pourquoi on invite les gens à aller signer un registre qui pourrait mener à un référendum éventuellement?
C'est parce que M. Saint-Pierre, c'est la pratique. C'est ce qu'il nous a demandé par les affaires municipales.
Et voilà.
Et on le fait. Mais ce que je vous dis, c'est que lorsqu'on aura c'est un véhicule. Quand on aura la nécessité de mettre en place le budget, puis je vous le dis, c'est pas là, c'est pas cet automne, ben on va faire le tour des communautés, puis on fera des assemblées citoyennes avec chacun des territoires de communauté. Aucun problème là-dessus pour leur parler à ce moment-là de l'ensemble de l'œuvre.
OK. Merci, Michel Lagacé.
Merci beaucoup, M.
On est à 8h moins quart. Et, Caroline, ça a duré 31 minutes, cette entrevue-là. Ça devait en durer 10-12. On fait une courte pause et on revient tout de suite avec Stéphanie et Kevin. On n'a pas le temps de procéder autrement. Il n'y aura pas de nouvelles. Je présume, en tout cas, que l'entrevue qu'on vient de réaliser, ça valait au moins ça, un bulletin de nouvelles. Alors, ding-dong pour faire venir Kevin Beaulé en studio. Puis, on va aller rejoindre Stéphanie dans quelques secondes. Stéphanie, salut!
Hello!
Une bombe ou une bombette concernant l'aller-retour du gaz naturel liquéfié?
Écoute, c'est une bombe, mais je ne suis pas tant surprise. Mais écoute, je suis flabbergastée de penser qu'il y a 2 ans et quelques, après des échecs de faire du gaz naturel liquéfié, on passe au comprimé parce que c'est payant, puis c'est ça qu'Énergir veut. Et là, ce qu'on vient nous dire, c'est finalement Énergir veut du liquéfié ou quelqu'un d'autre veut du liquéfié. Et on retourne au liquéfié, alors qu'on a dit clairement, quand on est passé à l'idée du comprimé, on n'essaierait plus de faire du liquéfié. On aurait essayé.
Non, mais parce que je me souviens très bien, puis j'ai été lire les textes qu'on avait fait à l'époque. Stéphanie, tu étais là, on avait dit, le liquéfié, c'est déjà le passé, l'avenir, c'est le comprimé.
Les mauvaises langues diraient qu'on a le temps de retourner au comprimé quand on va réussir à liquéfier.
Bien, c'est la raison pour laquelle j'ai posé la question à M. Lagacé. Si ça prend trop de temps, est-ce que vous n'allez pas être obligé de retourner au comprimé?
Mais je peux comprendre maintenant pourquoi Pierre Fitzgibbon est mêlé. Ben, tu sais,
Mais même les fonctionnaires doivent dire, ben voyons, là, on a analysé du comprimé, puis là, on va analyser du liquéfié, puis ouais. que, tu sais, je comprends la prudence. Puis, tu sais, il t'a dit, tout ce qu'on étudie, qu'on nous demande de faire, des études, des plans, puis qu'on te dit, il y a un fonds d'innovation à la MRC qui est donné par le ministère. Je veux bien, mais la moitié du fonds d'innovation serait utilisée à ça, alors qu'il pourrait être utilisé sur autre chose d'innovant dans la MRC.
Ben oui.
Fait que, tu sais, oui, on dit ça coûte rien à ses maires, mais ça coûte de quoi aux citoyens pareil, même si c'est un argent du ministère.
C'est ça. Mais tu comprends, Stéphanie, le rapprochement que je faisais dans une de mes chroniques dans Retour PM en disant, ben oui, mais tu sais, quand on parle de la caserne, en disant on va aller dans le fonds, le surplus. Les surplus accumulés de la ville, ben c'est exactement ça. Si on comprend qu'en prenant de l'argent quelque part, on pourra pas le mettre ailleurs, on a tout compris. C'est vrai pour ce que M. Lagacé nous expliquait tout à l'heure, puis c'est vrai également pour la caserne des pompiers, mais mêlons pas les dossiers, là.
Mais Michel Lagacé t'a dit, on va, pour revenir aux demandes qu'on veut connaître la dette, puis ce qu'on peut... On va nous dire la dette le jour où on pourra te dire comment on va éliminer la dette. Moi, si je dis à mon chum, je veux pas te dire l'état de nos finances, je veux pas te dire la dette, mais le jour où je sais comment on va l'éclairer, la dette, je vais te le dire. Voyons. C'est vraiment ce que j'en ai compris. Il dit, on peut pas étaler tout ça sans donner les raisons comment on va. Quand on va faire du liquéfié, je comprends bien, puis que les contrats vont être, être signés, ils sont comme signés, mais ben là, on va pouvoir savoir l'état des problèmes financiers.
Mais faut comprendre quand même. Bon, premièrement, moi, c'était clair, et j'avais annoncé mes couleurs hier, qu'il n'était pas question que je me chicane avec Michel Lagacé ce matin. Alors, les questions étaient très, très, très serrées, là. Puis je dirais qu'à certaines occasions, M. le préfet n'était pas toujours confortable. Ça se voit. Maintenant, il y a une chose qui est certaine, c'est que quand M. Lagacé, dépendamment du chapeau qu'il porte, là, quand il répond à nos questions, lui se croit. Il se croit. Il espère qu'on va le croire. Mais parfois, c'est assez invraisemblable comme explication. De la même manière que quand on parle de la régie intermunicipale pour lancer le parc technologique, je ne peux pas me rendre à son évidence à lui. Je ne peux pas me rendre là parce que les fondements d'une société, les fondements d'une entreprise, à partir du moment où tu passes, où tu mets le sceau pour dire « nous avons l'aval de la population pour y aller, pour démarrer », c'est le geste le plus important. Et ce matin, M. Lagacé a tenté de diminuer l'importance de ce geste-là, alors que c'est peut-être la seule fois où, dans les faits, là, ça aurait mérité vraiment que la population sache de quoi il en retournait, puis après ça, de dire, OK, c'est correct, ça a bien du bon sens, pas besoin d'aller signer le registre, tout nous semble clair. De quoi on avait peur? De quoi on a peur quand vient le temps d'expliquer à la population avant une signature de registre? En fait, on s'est servi de l'exemple de Rivière-du-Loup, mais il y a plein de municipalités là, qui vont devoir procéder de la même manière et qui vont probablement tenter de la même façon d'en faire le moins possible. M. Lagacé nous l'a dit. On fait ce que nous demande la loi.
Ouais. On le sait, ça.
Le strict minimum.
La question n'est pas là.
La question n'est pas là. Et c'est pour ça que je dis que dans les réponses que M. Lagacé nous donne, puis je veux dire, c'est son plein droit, là. C'est de la politique, dans le fond. C'est du politico-économique. Et il nous donne des réponses en se croyant. Donc, on imagine que quand il convainc les membres du Conseil des maires de la MRC, il se croit aussi. Puis même s'il y a des gens autour de la table qui sont pas d'accord, ben à un moment donné, c'est le consensus qui est recherché. Pis c'est par là qu'il faut que ça passe. Mais la nouvelle du jour, c'est que la CMR retourne au gaz naturel comprimé.
Liquéfié.
Et puis vous avez remarqué...
Mais là, ça marche pas encore.
Mais vous avez remarqué aussi que quand les questions étaient très serrées, là, qui paye, qui finance, qui, là, les questions venaient vite, là. Puis à un moment donné, ce qu'on a compris, ben c'est qu'on arrive à de l'argent qui nous est dû, puis que de toute manière, on allait la recevoir, puis au moment où ça arrive, on finance avec ça. Mais
on a dit la banque à un moment donné.
Mais c'est qu'au sortir de l'entrevue, l'équation.
Mais tu sais, je persiste à dire que l'argent qui nous est dû. OK, mais elle aurait dû servir à autre chose, je peux pas croire, parce qu'à la base, c'est supposé fonctionner.
Bien, après tout ce temps-là, j'imagine
l'argent qu'on reçoit présentement aurait dû servir à autre chose.
Ouais. Alors, ça reste un dossier extrêmement opaque. Très, très, très opaque.
Mais il n'a pas dit si ça marchait, le liquéfié, là. Il ne marche pas encore.
Ah, ben écoute, là, quand on a posé la question là-dessus, il y a eu une autre ou deux autres firmes d'ingénierie qui sont arrivées dans le portrait, là, puis semble-t-il qu'on a le mode d'emploi, on a le mode d'emploi dans les mains, là.
Fait qu'on va être invité quand la goutte va sortir. Oui. Moi qui attendais, tu sais,
la fameuse
que c'était
goutte.
Plus possible.
On n'en parlait plus de cette goutte-là.
La photo.
Ouais.